le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Apple a lancé son casque de réalité virtuelle, gadget ou révolution, on vous dit ça dans un instant. Mais d'abord, début 2019 avaient lieu les premières marches des jeunes pour le climat. Qu'en reste-t-il 5 ans après? On a posé la question à l'une des figures du mouvement. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Il y a 5 ans, début 2019, des dizaines de milliers de jeunes organisaient des grèves scolaires et des marches pour le climat dans les grandes villes européennes. 5 ans plus tard, que reste-t-il de cette mobilisation? Les demandes ont-elles été entendues? Après les jeunes tout court, faudra-t-il parler de jeunes adultes pour le climat? Pour répondre à toutes ces questions, on a appelé Adélaïde Charlier, figure emblématique de ces actions. Bonjour Adélaïde.
Bonjour Pierre.
Comment est-ce que vous définiriez les 5 années qui viennent de s'écouler entre les premières marches pour le climat et maintenant?
Waouh, il y a tellement à dire entre les premières marches pour le climat qui ont été vraiment en fait une mobilisation massive à travers la Belgique de jeunes qui ont décidé de faire grève, donc de rater les cours pour interpeller sur l'écart entre les appels des scientifiques sur l'urgence climatique et par les politiques menées dans notre vie de tous les jours pour y répondre. Et là, c'est important de noter, c'était vraiment en momentum. Donc, c'est né un peu du fait qu'il y avait un momentum qui est à travers l'Europe aussi, de ces jeunes qui commençaient à être sensibilisés. Clairement, aussi un momentum qui est né grâce à des mobilisations depuis des années et des années des générations avant nous. Et donc, la beauté du momentum qui a fait aussi sa force en 2019. Et ensuite, c'est important de noter que depuis, en fait, c'est un mouvement qui s'est créé. Donc, c'est un peu à l'inverse. Parfois, les mouvements se créent et ensuite, ils ont leur momentum parce qu'ils ont tout essayé de faire pour. Là, c'était vraiment l'inverse. Il y a eu le momentum. Les jeunes, du coup, ont décidé, comme ça marchait bien, de s'organiser. Et donc, depuis 5 ans, ce qui se déroule, c'est qu'il y a eu l'organisation d'un mouvement des jeunes pour le climat avec, après le momentum des grèves, l'idée de se diversifier dans nos manières de s'engager, de prendre action. Et donc, on a vraiment tout essayé. Ça fait 5 ans qu'on essaye d'utiliser tous les outils que la démocratie nous offre pour, un, mobiliser les jeunes et, deux, surtout mettre un gros coup de pression vers le monde politique d'abord pour être à la hauteur et aligné à l'accord de Paris et ensuite aussi le monde privé.
Vous pointeriez quoi comme victoire, comme grosse avancée que ces mobilisations ont permis d'obtenir?
La première chose, la beauté de la mobilisation des jeunes. C'était une force et puis surtout c'était très touchant émotionnellement de voir des jeunes et de voir encore aujourd'hui des jeunes engagés et engagés pour quelque chose qui les dépasse individuellement. Et je pense que ça, c'est la première victoire dans le mouvement des jeunes pour le climat. Ensuite, c'est du coup la sensibilisation qu'ils ont amenée à travers la Belgique et au-delà. Et donc aussi, avec ça, la légitimité de la jeunesse dans les débats politiques qui concernent en tout cas leur avenir et le climat. Et donc, cette légitimité, elle est énorme, elle est colossale, elle est grâce à leur mobilisation. Et ensuite, c'est vrai, politiquement, on peut analyser quelques victoires à travers ces 5 dernières années. On pourrait en élaborer quelques-unes. Je pense que la plus grosse, qui est entre autres grâce aux jeunes, c'est au niveau européen, le pacte vert, le Green Deal, qui est né la même année que le mouvement des jeunes pour le climat. Et j'ai rencontré plusieurs fois Ursula von der Leyen et elle insiste vraiment sur le fait qu'elle n'aurait jamais pu mettre en accord 27 pays autour d'un objectif du pacte vert sans qu'il y ait une mobilisation massive des jeunes à travers toute l'Europe. Donc là, on voit vraiment que la Commission européenne a voulu ensuite inclure un peu, elle a essayé structurellement d'inclure les jeunes dans leur création de nouvelles politiques vertes. Mais je pense que c'est hyper important de préciser que, premièrement, ce Green Deal, qui était notre petite victoire, n'est pas à la hauteur. Et deuxièmement, aujourd'hui, on est en train de perdre ce Green Deal. On n'est pas sûr qu'il va rester avec les élections qui arrivent. On n'est pas du tout dans le même momentum qu'en 2019. Et donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette optique d'énormes victoires à travers l'Union européenne. Donc, loin de là d'avoir une victoire, surtout qu'après, l'essentiel et le plus important, c'est que ces jeunes sont sortis dans les rues parce qu'on fait face à une urgence climatique. Et quand on analyse aujourd'hui l'avancée de l'urgence climatique, nous sommes toujours dans le rouge. Nos émissions de CO2 augmentent encore. Si vous regardez les chiffres et que vous voyez qu'en Europe, en fait, ça diminue, c'est parce qu'on ne prend pas en compte les émissions qui sont importées. Donc, ça veut dire toutes les émissions qui ne sont pas faites en Europe. Et donc, c'est important d'analyser que nos victoires restent politiques et symboliques parce que dans la science, on n'est pas encore dans le vert.
Ceux qui se mobilisaient en 2019, on les a dit stressés, éco-anxieux, on les a dit pessimistes quant à leur avenir. Comment ils vont aujourd'hui? Comment vous allez aujourd'hui?
C'est difficile de faire une généralité.
Et de parler au nom de tout le monde, évidemment.
Exactement, de tous les jeunes qui étaient présents dans les rues. Je pense que, premièrement, il y a beaucoup de jeunes, et je les remercie, qui ont continué leur engagement et qui l'ont voulu le trouver à travers quelque chose qu'ils aimaient faire ou le talent qu'ils avaient, ou alors qu'ils ont voulu commencer à remonter leurs manches et mettre les mains dans la terre, et donc à travers des projets plus concrets, moins politiques, à un niveau européen, fédéral, où on voit pas concrètement l'impact qu'on a quand on se mobilise. Et donc, pour ça, il y a énormément de jeunes qui ont rejoint des super projets comme la ceinture alimentaire à Liège ou la ceinture d'énergie à Namur, et il y en a beaucoup d'autres. Des jeunes qui ont voulu plutôt rejoindre des ZAD, des zones à défendre, des jeunes qui ont voulu pour plutôt rejoindre, je ne sais pas, des coalitions comme Code Rouge, plutôt dans la désobéissance civile. Donc voilà, en fait, il y a énormément d'actions et de projets qui sont nés aussi de cet engagement et ou des projets qui ont été renforcés par l'engagement des jeunes ces dernières années. Donc ceux-là, ils sont assez heureux des projets qu'ils mènent, mais il ne faut pas sous-estimer qu'ils sont, pour certains, anxieux ou alors en colère, ou révolter, ou énerver, tous les synonymes qu'on pourrait trouver dans ce champ lexical, parce que, en fait, il y a une frustration qui est montée avec l'idée qu'on a utilisé l'outil de la démocratie. Et ça fait 5 ans qu'on fait tout pour l'utiliser. La manifestation, le plus bel outil pour pouvoir se faire entendre. Et en attendant, il y a une frustration qui est menée, qui est qu'on n'a pas été à la hauteur dans nos politiques, qu'aujourd'hui, on entend que notre premier ministre a appelé à une pause sur les réglementations environnementales, et ça représente, ça reflète en fait la politique belge climatique qu'on a pour le moment. On a passé dans 2019 où on disait il fallait tout accélérer à maintenant oh merde, en fait peut-être qu'on n'a pas réalisé l'engagement qu'on a pris en 2019. Et je pense que ça c'est un problème politique qui a été qu'on s'est donné des objectifs qui étaient en fait le minimum pour être à la hauteur face à ce que nous a rappelé la science. Et ensuite, aujourd'hui, on réalise que ça veut dire qu'il y aura des changements systémiques. Ça veut dire qu'on va devoir changer la manière dont on s'organise, et c'est des grands projets politiques. Et je pense que ça fait très peur aux politiciens et qu'ils n'osent pas, du coup, affirmer la décision qu'ils ont décidé de prendre. Et ça, c'est problématique. J'explique ça, j'ai fait cette parenthèse pour expliquer la frustration de la jeunesse qui s'est mobilisée depuis 5 ans, qui a tout donné, qui s'organise aujourd'hui. Et il ne faut pas sous-estimer l'organisation de ces jeunes, que ce soit à travers la désobéissance civile, la manifestation, l'éducation ou d'autres projets collectifs qui sont très beaux.
Juste pour terminer, personnellement, vous avez porté le sujet, vous vous êtes beaucoup investi, vous vous êtes exposé aussi. Ça va, ça n'a pas été une expérience trop difficile. On sait que ça peut être compliqué de s'exposer comme ça pour ce genre de sujet pendant 5 ans.
Merci beaucoup pour la question. Ça va très bien. Je pense que ça va grâce à tous ceux qui m'entourent, grâce aux communautés qu'on a créées. Mais c'est sûr que quand on sort de là, et tous les jours, je pense que ça fait 5 ans que tous les jours, je sors de ma zone de confort, que je fais des choses juste inexplicables. Je veux dire, j'ai traversé l'Atlantique en voilier alors que je suis malade en voilier. Tout ça pour essayer de rejoindre une COP qui a été annulée. Donc, on finit sur des projets un peu fous. On rencontre des personnes complètement folles et incroyables. Mais je pense que c'est grâce à ces projets, grâce à ces rencontres, que j'ai réussi à renforcer mon activisme, ma vision, et à apprendre de ceux qui m'entourent. Et aujourd'hui, mon activisme n'est plus comme en 2019, parce qu'il ne vient pas de la tête, il ne vient pas des rapports. Même si je continue à les lire et à m'éduquer énormément, aujourd'hui, mon activisme, il vient des tripes. Et il vient d'un rêve que je décide de coécrire avec les autres jeunes qui m'entourent. C'est un rêve commun où on se dit qu'on peut vivre probablement dans un monde plus respectueux des limites planétaires et des limites sociales. Et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, mon activisme est encore plus fort qu'avant. C'est que ce rêve, il va continuer à exister grâce aux jeunes. Mais il est là parce qu'il y a un manque et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire.
Merci beaucoup, Adélaïde.
Merci à vous, Pierre.
Il s'appelle Vision Pro, il ressemble à un masque de ski en un peu plus épais et il promet une fois de plus une révolution. Le casque de réalité virtuelle d'Apple a débarqué sur le marché américain avec un lot habituel de commentaires dithyrambiques. Mais ce casque va-t-il vraiment révolutionner notre quotidien ou faudra-t-il le ranger dans la catégorie gadget bien fait mais gadget quand même? Arthur Boulanger a posé la question à Thomas Casavecchia, journaliste spécialisé en nouvelles technologies.
Il y a une semaine, il me semble, aux États-Unis, est sorti le Apple Vision
Vision Pro. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? C'est quoi le Apple Vision Pro?
Alors, Apple ne veut pas qu'on parle de casque de réalité virtuelle. Pourtant, c'est ça dont il s'agit. La marque à la pomme, elle préfère parler de spatial computing. Mais en réalité, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle, voire un casque de réalité augmentée. Évidemment, vu qu'il s'agit de réalité augmentée, le casque va aussi ajouter en surimpression des éléments virtuels. Par exemple, un écran géant, une application ou un album photo. Voilà, c'est ce genre de casque que propose Apple depuis le début du mois.
Et concrètement, on peut voir quoi à travers ce casque? Est-ce qu'il y a des applications spéciales ou c'est pour travailler, c'est pour jouer, c'est pour regarder? On fait quoi avec ce casque?
Apple le présente comme un nouvel ordinateur, une nouvelle façon d'utiliser un ordinateur, et donc les applications qu'on peut utiliser sont en fait des applications d'iPad, à quelques exceptions près. On peut notamment déplorer l'absence de Netflix ou de Spotify, qui sont quand même pas des petits noms non plus. On peut voir donc son environnement et des applications d'iPad en surimpression qui flottent un petit peu dans les airs, ou alors on peut décider de les poser sur une table, les accrocher au mur. C'est vraiment ce genre de choses qu'on peut voir à travers le casque. Maintenant, une petite molette permet de se couper complètement du monde. Si on a envie d'utiliser ces applications à la surface de la Lune, c'est aussi possible. Et en rappuyant simplement sur le bouton, il est possible à tout moment de revoir son environnement.
Est-ce que selon toi, c'est vraiment une vraie révolution ou c'est un peu gadget?
C'est peut-être un premier pas vers une révolution, mais à l'heure actuelle, c'est essentiellement un gadget. Déjà, de par son prix, 3 500 $, c'est pas donné à tout le monde. De par ses usages, on l'a dit, on peut revivre ses souvenirs filmés en 3D, on peut utiliser un écran géant, mais ça s'arrête un petit peu là. Il n'y a pas vraiment d'utilisation, comme on dit dans le jargon de la tech, on parle de killer app, l'application qui ferait que forcément on a envie de se jeter sur ce casque. Ici, elle n'existe pas encore. Et autant quand le premier iPhone est sorti au milieu des années 2000, on voyait immédiatement à quoi il allait pouvoir nous servir. Autant ce casque aujourd'hui, on se demande encore un petit peu pourquoi on le sort.
Et nous, en Europe, quand est-ce qu'on aura la chance de voir des gens se balader avec un casque sur la tête dans les rues?
Pour le moment, il n'y a aucune information officielle. Tim Cook et les responsables d'Apple ont dit qu'ils espéraient pouvoir sortir le casque le plus tôt possible. Évidemment, on n'a pas d'informations là-dessus. On se doute que ça ne devrait pas prendre plus d'un an, mais voilà, on n'a aucune information sur la sortie européenne de ce casque.
Est-ce qu'il y a une concurrence? En fait, Apple arrive un peu peut-être après tout le monde, non?
Oui, ça fait une dizaine d'années qu'on voit des casques produits par d'autres constructeurs. Il y a notamment l'exemple de Meta, l'exemple de Sony avec son PSVR, son PlayStation VR. Donc oui, la compétition est déjà bien implantée, a déjà bien développé son écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des stores d'applications très performants, tant du côté de Meta que du côté de PlayStation. Maintenant, le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a pas mal de développeurs de jeux vidéo donc sur PSVR qui ont annoncé qu'ils arrêtaient cette aventure parce que le public n'était pas assez nombreux et que finalement le casque n'arrivait pas à sortir d'une forme de niche commerciale.
Ouais, est-ce que tu penses qu'à long terme ce produit-là va avoir un succès?
Évidemment, j'ai pas de boule de cristal et c'est très difficile à dire. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un courant toujours plus fort au sein des consommateurs qui en ont finalement assez marre des écrans, se rendent bien compte que les écrans sont omniprésents, mais il y a une volonté de déconnexion et ce casque ne va pas du tout dans ce sens-là, au contraire. Maintenant, il s'agit d'un premier pas d'Apple dans la réalité virtuelle et dans la réalité augmentée. Meta, depuis des années, a investi aussi ce marché et réduit toujours le poids et l'encombrement de ses casques. Il y a fort à parier qu'à un moment, on arrive à rétrécir suffisamment les composants que pour arriver à un form factor qui ressemble beaucoup plus à des lunettes. Et des lunettes, il y a pas mal de gens qui en portent aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus confortable qu'un casque de ski d'un demi-kilo.
Et en conclusion, tu dirais que c'est une grande innovation pour le monde de la technologie ou ça reste quand même un peu un coup dans l'eau?
Je pense que tout le monde est à la recherche de l'appareil qui va remplacer le téléphone portable, le smartphone. Et c'est une évidence que des lunettes de réalité augmentée pourraient très bien remplir ce rôle. La technologie n'est pas encore prête à arriver à ce résultat. Une fois qu'on arrivera à miniaturiser tous les composants d'un casque, à les rendre plus faciles à porter et plus transportables, peut-être que ça pourrait être une révolution. Mais pour le moment, ça ressemble surtout à un coup dans l'eau.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.